Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Pas oublier le galon à mesurer. Hein? Il mesurait, puis il faisait beau soleil, puis encore plus tard dans la journée, il faisait noir, puis il mesurait encore les parties talons. Puis on voyait que c'était Stéphane, hein, la console qui avait le... Est-ce que tu étais l'arbitre en chef ou tu étais le participant qui disait... Il me semble que c'est à nous autres, ça, là, on est plus proches. C'est bon, hein, de... Mes parents, moi, je vois à la pétanque, là. J'étais trop petit, je voulais pas que je lance des boules tout partout, puis c'est dans mon ADN, c'est dans mon... Ça fait partie de mes gènes de jouer à la pétanque. Content d'être de retour parmi vous. Content de revoir que vous allez bien, que vous êtes là. Le Seigneur est toujours présent avec sa grâce, avec sa bonté. Je vais en voir, vous allez voir la deuxième partie du message de ce matin. Ça va être beaucoup des partages, mais ça va être un partage aussi lié à l'enseignement de la parole. Et le sujet qu'on va voir, c'est la maturité chrétienne. Pour moi, la maturité, c'est vraiment si, oui, notre vie, c'est Jésus, c'est par la foi, c'est le salut, mais une fois qu'on est rentré dans la relation avec Jésus, un des buts qui résume bien des choses, c'est la maturité. On va voir c'est quoi, donc je commencerai avec le petit PowerPoint, si vous pouvez, est-ce que c'est... Excellent! Donc, j'ai l'écran là. Très bien. Donc, la maturité chrétienne, comment la reconnaître? Comment vous faites pour savoir, pour dire que quelqu'un, un chrétien, oui, est mature? C'est quoi vos caractéristiques? C'est quoi vos points de repère? Mature, ben, dans l'Église, c'est celui que ça fait le plus longtemps. Puis, il est le plus vieux, donc, normalement, il a eu plus de temps. Il est le plus mature. Est-ce que c'est un bon... Non. Paul, pas Paul, mais l'auteur aux Hébreux disait que avec le temps, vous devriez être des maîtres, des gens matures depuis très longtemps. Donc, est-ce que l'âge, l'expérience est un critère? Est-ce que la connaissance biblique, des fois, des chrétiens, frères et sœurs, se disent « Ah, moi, je suis pas un super chrétien, je suis bien ordinaire. » Il y en a, là, les versets de la Bible, ils citent ça par cœur. Puis, est-ce que la connaissance fait que c'est une personne mature? Hein, il y a des chrétiens, peut-être plus, j'entends ça plus du côté des États-Unis, qui disent « Moi, ça fait 34 ans qu'à toutes les années, je lis ma Bible au complet, d'un couvercle à l'autre. » C'est bien de lire la Bible. Tu sais, dites pas, Richard, il dit de pas lire notre Bible. Mais est-ce que quelqu'un qui lit sa Bible complètement, qui ne passe pas par-dessus un verset, puis il fait ça à chaque année, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de mature? Non, hein, pas nécessairement. C'est quand quelqu'un est mature, c'est quand... Il est fin avec nous autres, puis qu'il est toujours d'accord avec ce qu'on dit. Ah, ça, c'est un chrétien mature. Hey, je l'aime bien, lui. Donc, il y a toutes sortes de critères qu'on peut considérer qui sont là. Hein? Une bonne connaissance biblique, une obéissance, une mise en pratique, une stabilité, des sentiments d'amour, des bonnes relations avec les gens. une acceptation de la souffrance, être capable de, d'avoir du renoncement, une consécration, discernement, sagesse, un équilibre dans les aspects de la vie chrétienne. Tout ça, ça, ça fait partie de la maturité. Mais est-ce que c'est, est-ce qu'il y a plus que ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Au niveau de la définition, le mot maturité, c'est le mot téléios au niveau de la langue originale. Et ce que ça veut dire, c'est rendu à son plein développement. Donc, quand on commence en tant qu'être humain, on est bébé, puis physiquement, là, on se voit grandir, puis on se voit arriver à un certain point. Donc, le mot, cet aspect-là de maturité, parfois, c'est rendu par perfection. Quand Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », et le mot qui est là, c'est aussi « téléios », qui est un synonyme qui veut dire « Soyez rendus là, à votre plein développement ». Donc, ce n'est pas la perfection comme Jésus ou Dieu le Père est parfait. Donc, on peut viser vers la maturité, vers le plein développement de notre foi et de devenir la personne que Jésus désire. Au niveau physique, on peut faire des liens avec le niveau spirituel. Ils disent, selon les études, que le corps d'un homme, ils ne parlent pas du corps de la femme, le corps d'un homme arrive à son développement, à son maximum, à quel âge? 25 ans. Après ça, il n'est plus en train de se développer et d'être à son meilleur. Après ça, il vieillit. Il se détériore. Puis, c'est pas pire. Notre corps se détériore jusqu'à 60, 70, 80 ans, selon les années que le Seigneur nous prête. Donc, la maturité spirituelle, celle-là, c'est le fait de ne pas arrêter à 25 ans de se développer. Hein. Spirituellement, on se développe et on peut grandir vers l'état d'homme fait jusqu'à notre mort, jusqu'à la fin de notre vie. Quelques passages clés qu'on n'ira pas lire tous les textes. Là, on va citer les passages importants. Je suis certain que vous les connaissez du bout des doigts. Hein, vous pourriez les mémoriser comme ça. Hein? Si on ne sait pas la parole de Dieu par cœur, ce n'est pas grave. L'important, c'est de l'avoir dans notre cœur. Pas nécessairement par cœur, dans notre cœur. Dans Éphésiens 4, 12, hein, ça dit qu'il a donné des hommes pour le perfectionnement des saints afin qu'on soit des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ici, là, on a trois expressions clés de la maturité qui saisissent vraiment la maturité chrétienne. Le perfectionnement des saints, homme fait, homme rendu à son développement. Et là, il y a un élément supplémentaire qui va très bien. À la stature parfaite de Christ. Donc, c'est ce qu'on vise en tant que maturité. Dans le passage, il y a aussi un élément de stabilité, hein, qui ne sera pas errant, emporté à tout vent de doctrine. Il va être capable d'être stable, il ne sera pas emporté par quelqu'un qui amène une mauvaise doctrine, quelqu'un qui dit, ah, regarde, viens de mon bord, va par là, puis il va être capable d'avoir cette stabilité. Maturité spirituelle. Il y a également Hébreux 5, versets 11 à 14, hein, qui dit que depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous êtes rendus à avoir besoin de lait parce que vous êtes des enfants. Et il dit, la nourriture est pour les hommes fait. Encore, c'est le mot de téléios, le mot de développement à son maximum. Et là, il y a un aspect de discernement dans Hébreux. La capacité de faire la différence entre ce qui est bien, entre ce qui est mal. Capacité de choisir entre deux choses. Des fois, c'est flou un peu. Bien, regarde, il semble avoir des bons désirs, des bonnes intentions. Il me semble que je pourrais prendre un ou l'autre, puis ce serait correct. Non! Besoin de ce discernement-là. Et ce discernement va venir à ceux qui sont exercés par l'usage. Il y a l'expérience qui entre en ligne de compte. On en vit des situations dans la vie chrétienne. Et chaque occasion, chaque situation qu'on vit, c'est le moment, l'opportunité unique pour apprendre, pour développer par l'usage, par ce qu'on vit, développer notre discernement. Et ce discernement va être vraiment un élément important de la maturité. Dans ce passage-là aussi, il y a un élément d'obéissance. On obéit à la parole, on apprend, on apprend à appliquer la parole de Dieu qui est parfois théorique, hein, c'est des enseignements. Il faut l'intégrer, il faut savoir de dire comment ça fait une différence, comment ça s'intègre, comment ça vient se placer dans ce que je vis à tous les jours. On a également d'autres passages qui sont un peu moins, qu'on les voit moins pour la maturité chrétienne. Jacques 3:2, hein, c'est qui est un homme parfait? C'est celui qui sait tenir sa langue en bride. Hein. Il dit, si quelqu'un n'est pas en train de, normalement, de faire sortir des paroles, des critiques, des allusions, il dit, c'est un homme parfait. Est-ce que ça veut dire qu'il est parfait? Non. Mais ça veut dire qu'il est complet, il est rendu à son plein développement, qu'il a appris à contrôler sa langue. Autre expression, en Galates 4:19, et celle-là, je l'aime beaucoup, jusqu'à ce que Jésus soit formé en vous. Il parlait, il dit, moi qui subis encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Jésus soit formé en vous. Donc, il y a un aspect de maturité que le caractère, les attributs, ce qui faisait que Jésus était unique et spécial et que les gens voulaient le suivre, bien, il va y avoir certains de ces éléments-là qui vont être en nous, qui vont commencer peut-être juste à sortir puis à se développer, de dire, hey, wow, j'aime telle caractéristique de ce frère, de cette sœur, ça ressemble vraiment à ce que Jésus savait si bien incarner. Colossiens 1:28, qu'on peut dire, hey, voici le but de toute église, voici le but de tout homme qui est un responsable, un leader dans une église. Hein. Présenter tout homme devenu parfait en Christ. Et ce qui est bon par rapport à la maturité, Paul, il disait, moi, mon but, là, je vais en spotter là, une centaine sur des milliers, puis m'investir en eux autres, puis je vais les faire devenir des gens matures. Quel était le mandat de Paul? Présenter les leaders, l'élite, certains, présenter tout le monde. Donc, qui est en marche vers la maturité chrétienne? Tout le monde! Est-ce que ça vous inclut aussi? Chacun d'entre nous? Chacun d'entre nous, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en train d'avancer. D'avancer. Donc, Seigneur, c'est le but pour ma vie, puis c'est mon désir que tu fasses une différence, que tu me transformes de jour en jour à ton image. Donc, Paul disait, je veux présenter tout homme devenu parfait en Christ. Et pour présenter tout homme, il devait passer par la conversion, annoncer l'Évangile. Et une fois que le salut est là, que le Saint-Esprit est dans la personne, eh bien là, c'est pas fini. On ne dit pas, lui est rentré dans l'arche, il est sauvé, on passe à un autre. Il dit, je veux présenter tout homme qui devient à la stature parfaite de Christ. Le but à atteindre, c'est la maturité spirituelle. Dans Éphésiens 4, 11 à 13, ça dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la maturité. Donc, on devrait avoir comme but dans la vie chrétienne d'avancer vers la maturité. On a le but d'être des témoins. Puis ça, ça va toujours rester là. Un porte-parole de la grâce de Dieu, annoncer l'Évangile, parler de Jésus, Jésus qui est le Sauveur. Et également, on devrait tous avoir comme but la maturité. Maturité rime avec croissance. Les deux vont ensemble. La maturité s'acquiert en grandissant, puis sans croissance, on demeure immature. Je dis souvent que quand en vieillissant, il y a beaucoup de gens qu'on voit, puis ça fait 10, 15 ans. Hein? Puis ma belle-mère a souvent tendance à dire « Hey, qui a vieilli, lui, ça n'a pas de bon sens, je ne le reconnais pas, c'est effrayant comme il a changé. » Mais bien des fois, on dit « Wow! » Des fois, on est gentil, puis des fois, c'est vrai. « Hey, tu n'as pas changé en 15 ans, tu es pareil, tu n'as pas vieilli. » C'est une belle qualité, hein? C'est le fun d'entendre. Des fois, on sait que la personne en met, mais spirituellement, quand on se voit 10, 15, 20 ans plus tard, puis que la personne nous dit « T'as pas changé, t'as pas avancé, t'es pas mal rancé. C'est le même Richard que j'ai connu v'là 15 ans. Il semble pas que Jésus là est en train de te transformer à son image. » Donc, il y a un aspect de croissance. La maturité est le résultat de la croissance. Et la croissance, le fait d'avancer, de se développer. La parole de Dieu nous dit, est-ce qu'il nous dit que du jour au lendemain, on devient des super-héros? Est-ce que du jour au lendemain, on est sanctifié, on n'a plus de problème avec le péché? Moi, ce que j'aime comme petite expression, c'est que au niveau de l'amour, au niveau de la sanctification, de l'obéissance, Paul disait souvent, et je vous exhorte d'aller à cet égard de progrès en progrès. C'est rassurant, ça. Hey, tu n'as pas besoin de franchir un étage en faisant un grand bond. S'il y a 12 marches, tu fais les 12 marches. Si tu montes une marche, puis tu es fatigué après avoir monté la marche, tu restes sur cette marche-là. Puis quand le Seigneur va te donner la grâce et la force de faire la prochaine marche, tu la feras de progrès en progrès. Comment on grandit vers la maturité? Bien souvent, puis quand c'est sale et c'est rude, il faut frotter fort. C'est à travers les situations de la vie difficiles. Les choses qu'on ne voudrait pas vivre, là, ben c'est les meilleurs moyens de grandir et d'apprendre. À travers les situations difficiles de la vie. Quand on veut s'enfuir, quand on dit « Seigneur, j'aurais donc pas voulu vivre ça. Seigneur, pourquoi tu mets ça dans ma vie? » C'est le moment. C'est là que tu vas grandir le plus. C'est là que la croissance est possible. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant l'épreuve, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est comme si je rentrais la tête en dessous de l'eau. Je prends un grand souffle, puis je fais « Puis là, j'attends que ça passe. Puis là, quand l'épreuve est passée, là, je sors la tête, puis je dis « Attends, je suis en train d'étouffer. » Je veux comme que ce soit juste une parenthèse dans ma vie que je dis « Ouf, je m'en suis sorti. » Un peu comme une mauvaise maladie qu'on apprend, puis on dit « Hey, si je peux guérir au plus vite, si c'est le cancer, donnez-moi des traitements, des ci, des ça, qui fait que, ouf, je reviens dans ma situation. » Spirituellement, j'ai tendance à être comme ça, puis peut-être que c'est le cas aussi pour vous. Mais c'est dans l'épreuve qu'on devrait rester là, respirer et dire, comment tu veux me transformer à ton image? Une des grandes vérités que j'ai apprises dans les 6 dernières années, c'est que la maturité, spirituelle, la maturité chrétienne qu'on a définie, qu'on a vue. Là. Je sais que c'était lourd, c'était un peu technique, là. On s'en va vers l'aspect plus pratique. Cette maturité-là n'est pas constituée que de connaissances de versets, pas seulement d'une obéissance froide, pas seulement par de la consécration où on serre les dents. Hein. Moi, dans la vie chrétienne, avant, v'là 6 ans, là, je vois cette image-là que la vie chrétienne, elle faisait mal. C'était pénible, mais ça ne me dérangeait pas parce que je le faisais pour Jésus. J'aimais Jésus, j'aime encore Jésus. Mais à ce moment-là, j'aimais Jésus, puis je me disais, « Jésus, tu es mort pour moi, tu t'es révélé, tu m'as sauvé. Ben, à cette heure, là, je suis prêt à tout. » Puis quand ça faisait mal, là, ben, c'était comme si je me mettais un bâton, hein, un bâton entre les dents. On voyait ça dans les vieux films, hein, quand ils opéraient quelqu'un, là, ils donnaient 2-3 gorgées d'alcool, ils mettaient de l'alcool, là, sa blessure, puis là, ils allaient prendre un grand couteau, et puis là, ils mettaient un bâton entre les dents du gars, pas qu'il se morte la langue ou ça allait faire trop mal. Ben, moi, la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Je serrais un bâton parce que ça faisait mal. Et je me disais, Seigneur, c'est mon joyeux service pour toi. Je suis en train de donner ma vie. Hein? Paul, il disait, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Mais j'oubliais un petit bout, là. C'est quoi, non? Pourvu que j'accomplisse avec joie. Avec joie, ma course. Et je peux vous dire que la joie, j'étais plus dans la souffrance, c'était dur. Et mon cœur souffrait, mon cœur était en train de mourir, mon cœur souffrait. Puis quand ça fait trop mal, si je branche les fils, j'ai deux fils qui sont reliés à mon cœur, puis quand je mets les fils, que ça fait mal, qu'est-ce que je vais faire à un moment donné avec les fils? Je vais les débrancher. Et c'est un peu ce que j'avais fait. Donc, si on revient à la maturité spirituelle, ma maturité spirituelle ne passait pas du tout par une maturité émotionnelle et par aussi une maturité relationnelle. Et c'est là que j'ai réalisé que Jésus, il voulait mon cœur. Hein? Jésus, des fois, il disait, « Vous dont le cœur est lent à croire. » Comment va? Jésus parlait souvent du cœur des gens parce que c'est avec notre cœur qu'on aime Jésus. On aime Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme. Maturité spirituelle, une transformation profonde au niveau du cœur. Un des pièges dans la vie chrétienne, on accepte le Seigneur, on met les choses malhonnêtes qu'on ne faisait plus, on les tense. Les mauvais mots qu'on disait, on les dit plus. Si on fumait, on arrête de fumer. Si on buvait trop, on arrête de boire ou d'avoir une mauvaise, trop grande consommation d'alcool, peu importe. Et là, on après un an ou deux, on dit, je suis devenu un bon chrétien. Ma conduite est bonne. Et on a tendance à croire que c'est tout ce que Jésus veut de nous. Tandis qu'il veut faire tellement un plus grand travail. Il veut nous amener à sa ressemblance au niveau des émotions, au niveau de l'amour, de la grâce, de la bonté, de la joie qu'on peut ressentir dans notre cœur. Romains 12, 2, hein, qu'on connaît bien, qui nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et le mot pour transformer, c'est « métamorphoser », un changement complet de nature. On a tendance à croire qu'on accepte le Seigneur, on met les choses en règle, puis c'est comme ça qu'on va rester. Quand on a cette transformation-là, la peur est identifiée et démasquée pour être remplacée par la paix. Puis par le courage dans les situations difficiles. La dépendance émotionnelle où on se soucie tellement de ce que pense tout le monde autour de nous fait place à la force, à l'assurance. La maturité spirituelle, une ressemblance à Jésus, c'est un des beaux critères. À l'image, c'est lui le modèle. La personne de Jésus. Est-ce qu'on peut dire que notre but, c'est d'être comme Jésus? Oui, mais moi le premier, j'ai besoin de dire, je veux avoir des caractéristiques, je veux avoir des attributs, des traits de caractère, mais est-ce que je vais être comme Jésus un jour dans ma vie? Non, hein, Jésus, il est Dieu, il était l'image du Père, donc je ne serai jamais complètement comme Jésus, mais je veux avancer vers les caractéristiques de sa personne qui fait que je vais être un disciple de Christ. Maturité d'être comme Jésus. Oui, mais c'est plus que ça. Ben non, ça ne peut pas être plus que ça. Ce n'est pas de faire tout ce qu'il faut par nous-mêmes pour être comme Jésus, parce que ça, là, c'est dur. Ça, là, c'est fatigant. C'est épuisant, puis on n'arrivera jamais. La maturité à la ressemblance de Jésus, c'est de laisser Jésus le faire en nous. C'est la vie, c'est l'action de Jésus en nous. Oui, mais Richard, comment qu'on fait ça? C'est très dur. Il faut que tu enlèves les mains de sur le volant de ta vie. Accepter de perdre le contrôle, de perdre nos points de repère, de perdre notre sécurité pour laisser Jésus agir en nous. Et j'aimerais vous... Là, on a vu la théorie, on a vu les principes et j'aimerais vous partager un peu mon expérience avec Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait depuis 2010 pour commencer à me conduire vers la maturité? Ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, le processus par lequel j'ai passé. En 2010, j'ai frappé un mur. J'étais plus capable de fonctionner. Et là, ce n'était pas juste une question de se discipliner ou de motivation, de se pousser. En général, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'obligation. Hein. Quand je parle naturellement, là, si je ne m'écoute pas, j'ai toujours le mot « il faut, il faut, il faut ». Et quand, en 2010, je suis allé voir des conseillers, Yvan et Sylvette, ils m'ont écouté, hein? Ils ont été tellement merveilleux. Ils posaient des petites questions, puis moi je donnais des longues réponses. Puis ils en voulaient des longues réponses. Et ils m'ont dit, Richard, il faut pour toi, ça veut dire quoi? Ben, il faut. Oui, tu sais, dans la vie chrétienne, il faut obéir, il faut vivre pour Jésus. Il faut, il faut. Mais là, c'était tellement rendu lourd. J'en pouvais plus. C'était le moment pour arrêter les « il faut ». C'était l'opportunité pour moi de laisser Jésus faire un travail dans mon cœur. Pour vous situer, j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 22 ans, en 1983. J'ai 55 ans. Je savais que vous étiez en train de calculer, là. Je découvre l'amour de Jésus. Puis là, le Seigneur, d'une façon claire, et me montre qu'il m'appelle au ministère. Et moi, je dis, je ne veux pas montrer à des gens à jouer au badminton ou à faire du ski de fond. Là. Je veux donner ma vie pour quelque chose qui compte. Et ça, je l'ai toujours. Et à partir de là, je me lance dans les études bibliques pendant 4 ans intensément. 6 ans après ma conversion, à l'âge de 28 ans, je me retrouve dans le ministère à temps plein, dans un rôle de pasteur assistant que j'aimais bien là, pour commencer. Et en dedans de moi, j'avais toujours lutté avec le désir de plaire aux hommes. Et tous les versets là, que dire, on ne cherche pas à plaire aux hommes, on cherche la gloire de Dieu, la gloire qui vient de Dieu ou des hommes. Puis c'était là. Et moi, j'avais pensé que parce que j'étais conscient de mes luttes, puis parce que je connaissais les vérités, je pensais que c'était comme réglé, tu sais, que j'avais pu ce problème-là. En même temps, en allant dans le ministère, je me sentais complètement indigne d'être pasteur. Mais je voulais répondre à l'appel du Seigneur, que je suis encore convaincu que ça vient de lui, puis lui faire confiance. Et je n'avais pas une grande valeur à mes yeux, et il y avait le danger que je n'ai pas une grande valeur aux yeux des gens. La solution, c'est que il fallait que je fasse bien les choses. Faire ce que les gens s'attendent de moi, puis démontrer par ma consécration, par mes bonnes actions, que je méritais d'être dans le ministère. Parce qu'à mes yeux, moi, je ne me voyais pas là. Puis je l'ai dit au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, si tu veux le faire dans ma vie, fais-le. Mais moi, je me sens absolument incapable. C'est pourquoi j'avais de si bonnes antennes pour détecter. J'étais très à l'écoute de ce que les gens aimaient ou n'aimaient pas. J'avais peur, je vivais dans la peur. Je luttais avec ces choses-là, puis j'étais toujours en train de demander à Dieu de m'en libérer pour que je puisse le servir lui. Mais je croyais que ces choses-là étaient réglé. Hein? Quand on travaille un peu sur un problème, ça fait quelques années, puis on aime dire quoi? Oh, c'est réglé, ça, c'est fini. Non, je suis conscient, là. Le 1er juillet 2010, je suis allé voir Yvan et Sylvette pendant 2 jours de temps. Et ils ont été d'un grand secours. Et ils ont agi avec grâce, avec amour. Et là, j'ai pu arrêter pour regarder mon cœur, pour voir ce qu'il y avait dedans. Ça a été l'enlèvement d'un fardeau incroyable, incroyable. J'avais plus besoin de faire grandir l'Église, j'avais plus besoin de réussir. C'était l'Église de Jésus, c'est lui qui allait la faire grandir. Ma valeur, le fait d'être apprécié puis aimé, avait rien à voir avec le ministère. J'ai commencé à être à l'écoute de mes sentiments et de mes émotions, me permettre de réaliser ce que je vivais dans mon cœur. Avant, je ne ressentais plus rien. Yvan m'a dit, « Richard, ton cœur est en train de mourir. » Quand il m'a dit ça, je dis, « Voyons donc, mon cœur n'est pas en train de mourir. » « Je vois bien, oui, oui, oh oui, pourquoi tu es ici? » Ah ouais. Et ils ont été à l'écoute des douleurs et de tout ce que j'avais vécu, et j'ai pu l'exprimer à eux puis dans la prière en pleurant. Toutes les larmes que je ne me permettais pas de sortir, ils ont sorti, là, ça a été tellement. Puis à chaque larme que je pleurais, mon cœur était dans la joie, j'étais dans le soulagement. Ce n'était pas des pleurs de tristesse, c'était des pleurs de libération, de souffrance. Je me souviens, j'étais là une nuit, hein, 2 journées à peine, et le lendemain, ça a été un moment marquant. Il fallait que j'aille au Costco, je vais au Costco, avant de prendre mes sacs, aller au Costco, je regarde le ciel bleu, puis là, je me mets à pleurer. Savez-vous pourquoi je pleurais? Ouais, c'était juste parce que je réalisais que mon cœur ressentait des choses que je me permettais, puis j'étais pas triste. Je pleurais parce que je ressentais, puis je recommençais à avoir cette liberté. J'apprenais à être en contact avec mes émotions. Les deux premières journées, les deux journées d'après, j'avais les larmes aux yeux, je me permettais de ressentir à nouveau. Et là, je voyais les changements dans le ministère. C'était beaucoup moins lourd. Je ressentais vraiment une grande liberté. Le besoin de réussir s'était mis de côté. Et ce qui est bon, c'est que ça fait 6 ans de ça. Vous savez, des fois, des gens vivent des expériences, puis ils nous arrivent 2 jours après, puis ils disent toutes sortes de choses, puis on a hâte d'entendre 1 an, 2 ans, 3 ans après, qu'est-ce qui va en rester. Mais pour moi, ça a été le début d'une démarche vers la maturité, vers vraiment un équilibre de ce que Jésus veut pour moi en tant que chrétien. Le salut en Jésus-Christ est toujours aussi important. De porter du fruit, c'est toujours aussi important, mais si on n'a pas cette maturité-là, l'œuvre spirituelle pour laquelle on a tant travaillé, elle va être perdue à cause de notre manquement. À l'automne, on va cueillir des pommes, hein? Et on aime les beaux gros fruits. Mais qu'est-ce qui arrive à une grosse pomme qui est sur une petite branche de rien? La petite branche, elle va casser. La pomme va tomber à terre, puis on ne pourra pas la recueillir parce qu'elle va être mangée par les vers ou peu importe. Voyez-vous l'exemple? Parfois, on n'a pas la maturité, on n'a pas su grandir, qui fait que quand, comme dirigeant, comme membre, quand on va être au point où Dieu va nous confier des choses importantes, on n'aura pas cette fondation solide, mature pour développer puis pour protéger l'œuvre de Dieu. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ça a été le début de quelque chose d'extraordinaire. Des grâces difficiles. Quand je suis revenu, j'étais sur un nuage. Mais après ça, on continue à travailler dans nos vies. Et par moments, je peux vous dire que je n'étais pas découragé. Ben un peu, j'étais découragé devant l'ampleur de la tâche. J'avais l'impression qu'à visiter mon cœur, qu'à grandir, à comprendre des choses, à laisser Jésus faire un travail, j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais. Vous savez, un bureau de même, là, quand vous ouvrez la porte et vous vous mettez à faire du ménage, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte. Puis si on a le courage de ne pas fermer la porte, puis qu'on commence, quand on commence à faire du ménage dans une pièce comme ça, c'est encore plus en désordre. Hein? Les hommes, peut-être, dans votre garage, là, votre femme vous dit, « Fais donc du ménage, on ne trouve plus rien, puis c'est tout à l'envers. » Pendant qu'on fait du ménage dans un bureau, dans un garage, c'est encore plus en désordre. Et il y a un temps, pendant qu'on le fait, on se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Au cours des 6 dernières années, il y a des moments où je passe à travers ça, mais à chaque fois, je vois la paix, la libération, la joie que Dieu me donne. Je vois aussi auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, la tension que j'ai pu, hein, parce que quand on est sous tension comme ça, puis il faut tout faire, ta tension va sortir quelque part, puis c'est auprès de tes proches, des gens que tu aimes, que ça sort. Bien des chrétiens, quand on leur parle de travailler sur leur cœur, travailler sur leur vie, travailler sur cette croissance de maturité spirituelle, maturité émotionnelle. Bien des gens, puis je vous comprends, je l'ai dit pendant 25 ans de vie chrétienne, peuvent dire, écoute, j'ai pas besoin de ça. Avec Jésus, Jésus transforme ma vie, puis il fait, puis j'ai juste à lire, puis à prier, puis Dieu est en train de le faire. Ça fait, j'ai pas besoin de penser, de réfléchir, de voir mes émotions. Mais quand on dit ça, qu'est-ce qui arrive? Le temps passe et on reste le même, on ne grandit pas. On peut dire c'est trop compliqué, trop long, c'est pas la méthode biblique. Moi, je crois que Jésus, les changements qu'il veut faire dans notre vie, il les fera pas avec un coup de baguette magique. Moi, j'aimerais que Jésus donne des coups de baguette magique sur mon cœur, sur ma vie. Jésus, regarde, j'ai ça, ça, ça. Ting! Je ne sais pas ce qui est arrivé, je n'ai rien compris, mais à cette heure, je n'ai plus peur, je ne suis plus stressé, j'ai sa paix, j'ai sa joie. Jésus veut qu'on comprenne ce qu'on a vécu. Jésus veut faire un travail où il est toujours la réponse, son amour, sa grâce, mais il veut venir nous rencontrer dans notre vécu, dans notre arrière-plan, dans ce qu'on a subi, qui a contribué à faire la personne qu'on est. Et il veut nous prendre là où on est et il va nous faire cheminer, mais il va nous faire comprendre. Et sa parole va être la réponse. Mais bien des fois, on aimerait juste Jésus, change-moi. Change une disquette hein, dans l'ordinateur. À cette heure, on les change, nos ordi, mais il y a un temps où on changeait la carte maîtresse. T'enlèves ça, t'en mets une autre, c'est tout un autre ordinateur. Jésus ne veut pas faire ça. Parce qu'il nous aime. Il veut nous guérir. Il veut nous libérer. Il veut nous donner sa joie, sa paix. Puis il veut qu'on fasse partie de ça par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut toucher notre cœur, nous donner la consolation. Notre Dieu est le Père des consolations. Il ne fait pas juste enlever les circonstances, il ne fait pas juste enlever tout, puis de dire, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je suis joyeux, puis je suis toujours joyeux, la peine ne m'atteint plus. Des grâces difficiles. Est-ce que vous avez fermé la porte de votre cœur en disant, quand j'ouvre, là, c'est pas beau? Avec le Seigneur, ça vaut la peine. J'aurais encore beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Je pourrais continuer longtemps. Mais je suis content de vous avoir partagé. Hein? Je suis pas mal rendu vers la fin. Oui? Encore 5-10 minutes? Ah bon, on va revenir. Une des choses une des choses que j'ai vécues le plus, c'est d'être capable de visiter nos blessures. Parce que quand on a été blessé, on trouve toujours ensuite le moyen de se protéger. Il y a des gens qui sont agressifs envers les autres, c'est leur nature. Ils vont être bêtes, ils vont être comme des petits chiens, là, aussitôt qu'ils voient quelqu'un, ils jappent, ils mordent les au moins, c'est pas des gros chiens, là. On peut avoir un caractère comme ça. Pourquoi? Parce qu'on dit, j'ai tellement été blessé qu'il n'y aura plus personne qui va me faire subir ces choses-là. Il y en a, ça c'est plus mon cas, De ce que j'ai subi, j'ai enduré, j'ai dit, écoute, j'ai tellement trouvé ça dur que je ne le ferai pas subir aux autres. Donc, moi, dans la vie, j'avais décidé que j'allais être gentil avec les gens. Si je suis gentil, probablement, ils vont être gentils avec moi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a d'autres personnes qui jouent la victime, qui disent « je vais être faible », dire « oh, moi, je ne serai jamais capable, j'ai besoin de quelqu'un qui me sauve la vie, vous savez, moi, je ne suis pas capable de me prendre en main ». Puis des fois, dans le mariage, il y a un sauveteur avec une personne qui est une victime qui dit « sauve-moi la vie », hein, et les deux sont contents dans ce rôle-là. Il y a d'autres personnes qui s'isolent, qui disent, écoute, je ne veux plus jamais être blessé comme je l'ai été et je ne veux plus être en contact avec les gens. Je vais minimiser. Et quand une personne comme ça se retrouve dans une église locale, hey, c'est dur de venir à l'église. C'est dur de parler puis d'écouter les gens puis d'être constamment comme ça. Donc, on a toutes nos dynamiques personnelles. Jésus, il veut qu'on s'aime. Jésus veut qu'on développe cet amour qui vient de lui. Et depuis 6 ans, ce que je veux vivre, l'amour et la grâce. Et quand je suis dans des situations difficiles, je dis, Seigneur, quand tu m'as touché, tu m'as montré que ce que je voulais vivre, ce que j'avais vécu avec toi, c'est ton amour, ta grâce. J'ai plus besoin de courir, j'ai plus besoin de sauter haut. Il n'y a rien que je peux faire pour que Jésus m'aime plus. Une belle phrase à dire, mais dans la vie chrétienne, bien des fois, on se dit, écoute, Seigneur, là, je ne suis pas correct, là, tu ne dois pas être content avec moi, là, je vais courir plus vite, je vais sauter plus haut. Puis quand on le fait assez et qu'on est fier de nous, on pense que Jésus nous aime plus. Et si on fonctionne comme ça face à Dieu, face aux gens, comment on va agir? Si les gens ne courent pas assez vite ou ne sautent pas assez haut, puis que nous, on fait tous ces efforts-là, qu'est-ce qu'on va communiquer à ces gens-là? Hey, qui n'y arrivent pas, puis on va comme devenir un peu exigeant en disant, « Hey, tu es chrétien, toi? Fais ta part, grouille-toi, prends-toi en main, là, chrétien de Corinthe ou de... » On va juger et on ne sera pas dans la grâce. Et pour moi, ces deux mots-là, amour, grâce, c'est ce que je veux vivre avec Dieu, c'est ce que je reçois de Jésus. Puis, je suis loin d'être parfait et constant tout le temps dans ça, mais c'est ce que je veux vivre aussi avec les gens. Amour et grâce. Je suis juste au début. Je suis tranquillement en train de devenir celui que je voulais devenir au début de la vie chrétienne, au début du ministère. Et le Seigneur appelle chacun d'entre vous à grandir vers la maturité, à grandir vers cette ressemblance. Il nous appelle dans sa grâce à le suivre, à répondre à son invitation vers la maturité. Il nous appelle à ouvrir notre cœur, à arrêter de juste se protéger, de s'isoler, puis de dire bonjour à tout le monde à l'église, puis de ne pas entrer en relation. Oui, quand on entre en relation, les choses, ça sort, puis... Il y a du ménage à faire, il y a des feuilles qui revolent dans le bureau, là. Mais ça, c'est la vraie vie. Quand on fait un tel travail, une telle démarche, le but, c'est pas de se sentir bien ou mieux. Oui, on va se sentir mieux à la fin. Le but, c'est d'être libéré pour pouvoir servir Dieu avec joie. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Se libérer pour dire, écoute, je suis pas en train de marcher quand je marchais dans la vie chrétienne, j'avais constamment un boulet à mes pieds. Mais si quelqu'un me disait, Richard, tu devrais t'arrêter, tu as un boulet à tes pieds. Pendant ces 20 années de ministère, 25, 26 ans de vie chrétienne, si quelqu'un m'avait dit ça ou quand les gens me disaient ça, qu'est-ce que je disais? Non, ça va. Quel boulet? Je n'ai pas un boulet. Non, je marche, ça va bien. Mais c'était lourd, c'était pesant. Et je ne connaissais pas cette liberté, cette joie. Et le Seigneur vous invite, hein, chacun d'entre nous, à avancer. Comment vous pouvez faire ça? Commencez avec votre conjoint. Vous ouvrir un peu plus. Si vous vivez une situation difficile, parlez au jeu de dire, voici comment je me sens. Je me sens comme ça. D'être capable d'écouter. De ne pas juste mettre de côté les émotions qui viennent en vous, dans votre cœur. Jésus veut s'occuper de notre cœur. Il veut nous faire grandir à sa ressemblance pour qu'on puisse aimer. Ressentir son amour, qu'on puisse vivre la paix et la joie dans le peuple de Dieu, afin qu'on rayonne en disant que les gens voient, waouh, ce qu'ils vivent, eux, c'est extraordinaire, on veut ça. Ça a été beaucoup décousu à gauche, à droite, beaucoup de choses. J'espère que le Seigneur vous a touché et que ça va vous donner une inspiration, une petite étincelle pour faire des pas, faire quelques pas pour avancer dans la maturité chrétienne. Il y a une petite communication que j'aimerais vous faire. Il y a déjà un an, hein, ça passe vite, je me souviens, mon premier message était au mois de juin, une église sous la grâce, et vous, c'était...
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.com.